soir. Deux sujets sont au menu de la tribune de la presse de ce jour. D'abord, la publication par la CENI lundi dernier du calendrier des élections urbaines, municipales et locales. Ensuite, nous parlerons des associations féminines qui ont déposé un mémorandum au corps diplomatique lundi dernier pour protester contre les violations des droits de l'homme dans les expulsions de Brazzaville. Trois confrères journalistes vont commenter avec moi cette actualité. Félix Kabouizi, directeur de publication du journal La Référence Plus, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Félix Kabouizi.
Bonsoir.
Albert Romba, journaliste à Tropicana FM, une télévision émettant à Kinshasa. Albert Romba, bonsoir.
Oui, bonsoir, vous frère.
Et nous irons en province à Butembo où nous serons en ligne avec Dimanche Kasereka Kamate, journaliste à la radio Moto Oicha de Butembo Nord Kivu. Dimanche Kamate, bonsoir.
Oui, bonsoir, confrère Alain Irang, c'est Tropicana Oicha, d'où je te viens.
Merci bien et bienvenue à tous dans votre émission. Publication par la CENI lundi dernier du calendrier des élections urbaines, municipales et locales, ainsi que les associations féminines qui ont déposé un mémorandum au corps diplomatique lundi dernier pour protester contre les violations des droits de l'homme dans les expulsions de Brazzaville. Voyons comment la presse kinoise a traité ces sujets dans cette revue de presse que nous présente Kéline Kouté.
Bonsoir. Publication du calendrier électoral pour les élections locales. Le quotidien quinois La Prospérité annonce que le calendrier des élections locales est là en 2015. Malo Malo invite les Congolais aux urnes. Fini les spéculations, note la consoeur. Les dates de la tenue des élections urbaines, municipales et locales sont désormais connues. Ce que certifie le quotidien Forum des As en relevant qu'avec la publication du calendrier des élections urbaines, municipales et locales, Malo Malo tient parole. Le cycle va du 14 juin 2015 au 15 octobre 2015. La balle est maintenant dans les camps de la classe politique, estime le contraire. Voilà qui fait dire au quotidien Le Phare que la CENI publie le calendrier et se lave les mains. Aussi, le journal du groupe L'Avenir signe-t-il en manchette élections urbaines, municipales et locales 2014-2015. Malo Malo publie le calendrier, met la pression sur la classe politique et la société civile. La Référence Plus rapporte que le MSR, parti politique de la majorité, estime que c'est une occasion pour le peuple de voter ses dirigeants de proximité. Mais une partie de l'opposition pense que ce calendrier vise à maintenir le président Kabila au-delà de son mandat constitutionnel qui expire en 2016. Changeons de chapitre pour parler de l'affaire des expulsions des Congolais de la RDC du Congo-Brazza. Forum des As se demande de regard des violences sexuelles systématiques contre les RD congolaises expulsées de Brazzaville si Jean-François Ndenge est le prochain candidat à la CPI. Le contraire relève que ce sont les femmes RD congolaises regroupées dans la plateforme dénommée Femmes congolaises pour la paix qui l'affirment haut et fort dans leur mémorandum adressé à la communauté internationale sur les expulsions barbares sauvages de Brazzaville, surtout les viols systématiques des Congolaises de tout âge. Cet acte est reconnu par le droit international comme un crime international, précise le quotidien. C'est ainsi que le journal La Prospérité signe aussi viol des RD congolaises expulsées des Brazzaville, la plateforme des femmes pour la paix saisit la communauté internationale. Toutefois, Forum des As souhaite vivement une commission d'enquête.
Merci Kéline Kouté. Nous allons aborder ces sujets en profondeur tout à l'heure. Félix Kabouizi, parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité, on peut citer la célébration de la journée des casques bleus le 29 mai. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Bon, ça représente d'abord la grande contribution de la MONUSCO pour le retour de la paix dans notre pays. Il faut revenir vers les années 2000-2001 lorsque les casques bleus débarquent dans notre pays. La République démocratique du Congo est divisée en plusieurs morceaux. Il y a trois grandes rébellions pratiquement qui contrôlent à ce moment l'est du pays. Le RCD Goma dans le Kivu. Et la province orientale, le MLC pratiquement dans l'ensemble de la province de l'Équateur, mais il y avait également le RCD KML et bien d'autres groupuscules. Donc la contribution, la première grande contribution des casques bleus dans notre pays, c'est d'abord d'avoir contribué en tout cas à la pacification du pays. Et comme on l'a dit, c'est une des grandes missions de l'ONU avec plus de 17 000 hommes de troupes dont on évalue le budget, il me semble, à plus d'un milliard de dollars chaque année. Et 10 ou 12, 13 ans après, on peut considérer que la MONUSCO a fait un travail remarquable dans notre pays, même si quelques critiques ont été entendues ça et là, mais de manière globale, il faut absolument féliciter les casques bleus pour le grand travail réalisé dans notre pays.
Albert Omba, un commentaire sur le même sujet.
Oui, je crois que grâce à l'implantation de la MONUSCO, surtout dans la partie est, à commencer d'abord par l'Ituri, et le nord Kivu et le sud Kivu, et cela a permis, comme le grand frère Félix vient de le dire, de stabiliser un peu, de maintenir d'abord la paix à l'est, après tout ce qu'il y a eu comme division d'abord du pays entre les trois cartels, ouest avec les forces loyales, l'équateur avec les MLC et les RCD à l'est. Ça a permis d'unifier le pays et nous avons pu franchir cette étape et est venue l'étape de stabilisation de la paix, et malgré qu'il y a eu beaucoup d'embûches au niveau de l'Est, on est allé à la vitesse supérieure. On a vu pour la toute première fois la constitution d'une force des Nations Unies qui avait un mandat très clair, un mandat offensif, ce qui n'était pas facile, ce qui a permis aussi de mettre fin surtout à la rébellion du M23. Et maintenant, je crois qu'on passe à l'étape de stabilisation et on va voir comment et vers le développement, comment cela va donner comme résultat.
Dimanche, Kamate, quelle est l'actualité à Oicha? Vous pouvez dire également un mot sur l'apport des casques bleus dans la partie du pays où vous vous trouvez.
Oui, cher confrère, pour le moment, l'actualité qui domine la cité d'Oicha, c'est les sécurités, les règles de sécurité, l'espace qui est mis sans qu'il y ait des gens qui récupèrent téléphone, argent auprès de la population. Et donc, pour le moment, tous les territoires de Beni sont en train de vivre les règles de sécurité. Mais quant à ce qui concerne cette journée dédiée au casque bleu, d'une part, la population du territoire de Beni est contente de cette œuvre très grandiose réalisée par les casques bleus. Et d'autre part, les gens sont en train juste de se poser la question quant au déplacement du gros de l'effectif de la MONUSCO dans la partie est du pays. Et c'est une peur qui règne au sein de toute la population, parce que celle-ci est en train de se poser la question, est-ce que ce n'est pas un plan qu'on veut maintenant concrétiser pour balkaniser l'est du pays? Donc, c'est ça, en fait, des mots, l'actualité qui domine l'est du pays.
Alors, pour clore ce chapitre, Félix Kabouizi, dimanche Kamate, soulève quelques craintes par rapport à la reconfiguration de la MONUSCO. Comment est-ce qu'elle est perçue au niveau de la presse congolaise?
Non, je pense que cette crainte est totalement injustifiée. On comprend peut-être l'antise qui habite l'est du pays après autant d'années de conflits qu'ils ont connus, que chaque fois qu'ils voient un déploiement des troupes de la MONUSCO, qu'ils craignent une éventuelle reprise de conflit. Mais je pense que on l'a dit, on l'a répété, c'est parce que les soldats de la MONUSCO n'avaient plus grand chose à faire dans la partie ouest du pays, où la situation s'est beaucoup stabilisée à l'ouest tout comme au centre. Et on a dit qu'il fallait qu'ils concentrent leurs efforts, en tout cas pour, si vous voulez, stabiliser définitivement cette partie est. Mais il y a aussi, je crois, un problème de moyens. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas aujourd'hui la seule partie du monde qui a des problèmes. Rien qu'en Afrique, il y a déjà le Mali, il y a la République centrafricaine, où il faudrait d'ici là déployer encore des militaires qui doivent être pris en charge par le système des Nations Unies. Je pense qu'il n'est que tout à fait normal que la MONUSCO commence à dégraisser une partie du personnel non essentiel.
Albert Omba, l'actualité à Kinshasa, c'était aussi la semaine française à travers laquelle les autorités congolaises, en commençant par le Premier ministre, ont demandé aux opérateurs économiques français d'investir en RDC. Un petit commentaire.
Oui, bon, c'était une foire qui a permis quand même des échanges assez fructueux entre le gouvernement congolais et la communauté française. Et ça a permis aussi au gouvernement de faire l'inventaire de tout ce qui est comme un niveau d'investissement du français à RDC. Et c'est peut-être aussi, c'était une occasion de chauffer un peu les relations économiques entre la RDC et la France. C'était une meilleure occasion.
Surtout aussi après la visite du président Kabila en France.
Voilà.
Voilà, nous allons passer à notre premier thème de ce soir. La CENI a procédé lundi dernier à la publication du calendrier des élections urbaines, municipales et locales. En croire son président, trois grandes dates méritent d'être retenues. Il s'agit du 14 juin 2015, scrutin des conseillers des communes, des secteurs et des chefferies. Le 29 août 2015, vote des conseillers urbains, des bourgmestres et des chefs des secteurs. Et enfin, le 15 octobre 2015, élection des maires et maires adjoints. Pour l'abbé Apollinaire Malumalu, ces élections sont très importantes car ce sont elles qui doivent consacrer la stabilité du pays. On l'écoute dans ses propos recueillis par Michel Kifindangoy.
En ce qui concerne toujours les élections urbaines, municipales et locales, vous le savez, ce sont les plus grandes qui doivent aider à la stabilisation de l'État congolais. Alors tout le monde sait que, en perspective, il y a un recensement administratif. Pouvons-nous concevoir un recensement administratif qui concerne toutes ces entités-là et ne pas prendre le courage de les stabiliser? Parce que désormais, ce n'est pas le bourgmestre seul qui décide. Il doit être accompagné par le conseil des communes. Ce n'est pas le chef de chefferie, seul le chef de secteur qui décide. Selon la loi. Donc, toutes les perspectives du système électoral congolais nous amènent à dire que, sans aucun doute, la fondation même de l'organisation des élections, ce sont les élections urbaines, municipales et locales. Nous ne commencerons pas la construction par le toit, nous commencerons par les fondations et nous continuerons le processus.
Les élections urbaines, municipales et locales constituent la fondation de notre système électoral. À plusieurs titres. Premièrement, elles n'ont jamais eu lieu parce que les lois qui concernent la décentralisation et la déconcentration de l'État ont tardé à venir. Mais fort heureusement, il y a une loi qui a été votée en 2008, une autre en 2010. Et le Premier ministre a déjà sorti le décret en 2013. Et le ministre de l'Intérieur est prêt en ce qui concerne le reste. Il n'y a plus aucun obstacle pour la tenue de ces élections-là. En deuxième lieu, il s'agit de l'électeur qui, pour la première fois, en allant aux urnes pour la troisième fois depuis la transition, va élire ses dirigeants de proximité. On ne peut pas lui priver cela.
Ce calendrier rendu public par le président de la CENI, Abbé Apollinaire Malumalu, prévoit en une seule année 2015 trois élections pour doter prochainement les entités locales des nouveaux dirigeants. Le chronogramme de la CENI prévoit par conséquent une concentration de plusieurs activités pour la tenue de ces élections dans le temps imparti. Les grandes lignes de ce calendrier électoral qui va du mois de juin 2014 à novembre 2015 avec Askenzik Biatayoro.
Le calendrier s'étale sur 18 mois. Il entre en activité à partir du 10 juin au 9 juillet 2014 avec l'accréditation des observateurs et ses clôtures avec l'installation le 5 novembre 2015 de maires et des maires adjoints. Plusieurs activités de la CENI sont à réaliser durant ces 18 mois. Entre autres, l'examen au Parlement de l'annexe de la loi électorale portant répartition des sièges, les dépôts des candidatures, l'affichage des listes des électeurs par site et bureau de vote au moins un mois avant les élections municipales et locales. Les conseillers des communes, des secteurs et des chefferies seront, sauf imprévus, élus le 14 juin 2015 au scrutin direct. Pour les conseillers urbains, des bourgmestres et chefs de secteur, leurs élections sont prévues le 29 août 2015 au scrutin indirect. Et toutes les villes de la RDC devront avoir de nouveaux maires et maires adjoints à l'issue d'un scrutin indirect programmé le 15 octobre 2015. Pour le président de la CENI, les élections municipales, urbaines et locales constituent la fondation du système électoral congolais. D'où, a-t-il dit, il est important de les organiser avant afin d'éviter à la tête des entités locales des nominations perpétuelles de personnalités au lieu d'être élus.
Félix Kabouizi, je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal La Référence Plus, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Comment vous analysez la publication de ce calendrier? Il y en a qui pensent qu'il est réaliste et d'autres qui pensent qu'il est dangereux.
Bon, je pense qu'il y a beaucoup de critiques qu'on peut émettre après la publication de ce calendrier, mais je voudrais concentrer, si vous voulez, les critiques les plus importantes autour de deux points. Et le premier, c'est celui du consensus électoral. Je pense que après les élections chaotiques qu'on a connues en 2011, il n'est pas du tout intéressant que la CENI redémarre un nouveau processus, un nouveau cycle électoral avec la contestation au départ. Vous voyez que après la publication de ce calendrier, pratiquement la classe politique est divisée. L'opposition rejette complètement ce calendrier. Pas une seule opposition, je voudrais dire pratiquement toutes les quatre tendances de l'opposition, c'est-à-dire l'opposition radicale et le tshisekédiste qui rejette. L'opposition radicale, elle, Caméré et l'autre, j'ai oublié peu, le responsable du Sauvo, le Congo, le député Fayoulou, Martin Fayoulou, voilà, c'est elle là aussi, a rejeté ce calendrier. L'opposition modérée du MLC l'a rejeté également, tout comme en tout cas les membres de l'opposition républicaine. Donc on se trouve devant une situation où l'opposition rejette le calendrier, il n'y a que la majorité qui semble l'avoir accepté. Du côté de la société civile, c'est pratiquement tout en bloc, hein. C'est pratiquement toutes les grandes tendances de la société civile qui rejettent également la Constitution. On ne peut donc pas aller vers de bonnes élections lorsqu'il y a contestation dès le départ.
Mais Félix Kabouizi, peut-on arriver, est-il possible de mettre tout le monde d'accord?
Je crois que oui. Autour des élections, on peut arriver à mettre tout le monde d'accord. Le problème, c'est que la CENI n'a même pas organisé cette concertation-là. Voilà le problème. Il n'y a pas eu concertation entre la classe politique. Et je pense que tout le monde attendait qu'il y ait cette concertation-là pour qu'on arrive, en tout cas, à un calendrier harmonisé. C'est possible. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. La deuxième critique, c'est que lorsqu'on voit comment les choses sont agencées, on voit tout de suite que on n'a pas du tout l'impression qu'on veut préparer les élections de 2016. Puisque comme notre confrère l'a rappelé tout à l'heure, le calendrier s'étale sur 18 mois à partir de juin 2014 jusqu'à novembre 2015. Alors on peut se demander à partir de là, quand est-ce qu'on va organiser les élections provinciales, sénatoriales et des gouverneurs, et puis arriver à l'élection présidentielle qui doit avoir lieu en principe autour du mois de septembre 2016. Donc on voit très clairement que l'intention n'est pas d'organiser les élections, tant plus que Maluma lui-même a dit qu'avant d'aller aux élections présidentielles, il y a des préalables, notamment l'organisation du recensement administratif. Donc il y a toutes les craintes que nous allions droit vers de très grandes contestations.
Et donc on est très mal parti.
Absolument mal parti.
Albert Omba, vous êtes journaliste à Tropicana FM, une télévision émettant à Kinshasa. Est-ce que vous partagez le point de vue de Félix Kabouizi?
Oui, avant d'arriver aux critiques, je voudrais d'abord souligner quelques aspects qui sont quand même à mettre au niveau de la publication du calendrier. C'est qu'il faut tirer comme leçon que dans cette publication, il y a une organisation d'un audit externe. Il y a l'audit externe qui permettra à des personnes extérieures de suivre l'évolution du fichier électoral et surtout comment on va fiabiliser, parce qu'on commence par la première opération qui consiste à fiabiliser les fichiers électoraux et les cartographies opérationnelles pour tout ce qui aura comme résultat de ça va retomber à la répartition des sièges, ce qui va demander beaucoup de travail à faire.
Ça, et c'est donc là, c'est parmi les éléments positifs.
Oui, il y a aussi un élément positif que ça permet, en dehors de l'élection de membres de proximité, comme l'a souligné M. l'abbé Malumalu, il y a aussi un autre aspect qu'il faut souligner, c'est de voir comment on peut organiser ces élections pendant ce timing. Donc, en dehors du fichier électoral, on verra aussi comment l'électeur va se prendre pour arriver à ce niveau-là. Maintenant, comme critique, nous avons beaucoup d'aspects aussi, parce que, Félix vient de le dire, c'est presque à main levée qu'on a pris, en dehors de tout ce qu'on a eu comme journée porte ouverte, les opposants n'ont pas eu le temps de se préparer à affronter directement le programme ici électoral, ce qui pose beaucoup, parce qu'il faut beaucoup de moyens aussi de leur part. Et il y a un autre aspect difficile aussi, parce qu'il faut passer par le recensement administratif. Si on commence le processus pendant ce temps, quand est-ce qu'on va faire les recensements? Parce que le recensement administratif lui-même ne peut pas prendre moins de 6 mois. Donc, ça pose un autre problème. Et encore un autre problème financier. Jusque-là, on n'a pas de gouvernement. Nous avons un gouvernement qui est démissionnaire et tous ceux qui peuvent supporter le processus électoral hésitent à donner le moyen parce qu'ils ne peuvent pas donner le moyen au gouvernement provisoire.
Mais du moins, l'abbé Maluma l'a dit qu'il y avait déjà près de 160 millions de dollars qui étaient disponibles.
Vous verrez que ça, 60 millions pour organiser des élections d'à plus de 3000 bureaux. Parce que n'oubliez pas que nous avons aux élections locales, c'est-à-dire dans chaque secteur, et nous avons combien de chefferies secteurs dans la République, c'est presque 1 000 000. Et quand vous devez organiser autant de bureaux pour chaque secteur, ça demande des moyens colossaux pour le déploiement de matériel, le déploiement de tous les observateurs, tout ça. Ça vous fait un travail énorme. Ça demande beaucoup d'argent qu'on n'a pas encore mobilisé jusque-là. Même si la MONUSCO peut donner son appui matériel, mais je crois pour déployer tous ces matériels-là, pendant ce laps de temps, ça va poser d'énormes problèmes. Et ce qu'on pouvait encore souligner, comme le grand frère l'a dit, le consensus est nécessaire. Il faut, quand il y a un programme électoral, il faut un consensus, il faut que tout le monde se mette d'accord qu'on peut démarrer l'opération pour éviter des contestations plus tard. Et ce que je voulais aussi dire, que cette opération électorale permet, avec l'opération des accréditations des observateurs depuis le 10 juin, ça permet aux observateurs de suivre tout le processus électoral.
En temps réel.
En temps réel. Et ce qu'il faut demander maintenant aux opposants, malgré leurs critiques, ils doivent tout faire maintenant pour mettre en place des observateurs qui vont suivre le dossier de l'opérationnalité du fichier électoral. Parce que c'est la base même de tout le processus qui va suivre après.
Dimanche, Kasere Kakamate, vous êtes journaliste à la radio Moto Icha de Butembo Nord Kivu. L'abbé Malumalu n'a-t-il pas raison quand il dit qu'il faut commencer par la base?
Oui, contraire à l'Iranque, ce qu'il faut d'abord savoir, organiser les élections, c'est une preuve de la démocratie, mais quel genre d'élections? Faut-il organiser les élections seulement dans le but de présenter? Moi, je pense qu'il ne veut que la population puisse voir de très près. On nous demande de voter, et à bientôt nous allons le faire. Mais est-ce que les conditions sont-elles réunies pour que les gens parviennent à réaliser les élections crédibles, transparentes et démocratiques? Parce que personne ne l'ignore. En 2006, la population avait voté le président de la République, ainsi que les députés provinciaux et nationaux. Mais voilà, 5 ans après, c'est-à-dire en 2011, le votera encore le président et les députés nationaux, mais jusqu'aujourd'hui, au niveau des provinces, il y a encore des députés provinciaux. Alors, moi, je suis en train de me poser la question. Est-ce que pour le moment, nous pouvons dire que la population congolaise se sent à l'aise de cette suite-là du cycle électoral? Donc, il revient aussi à ces gens qui ont été placés pour organiser cette élection de nous fixer, de nous donner des précisions. Parce que l'on ne parvient pas à comprendre qu'on fait aller Irunk. La situation dans laquelle les Congolais se retrouvent, c'est une situation d'incompréhension totale du processus électoral, étant donné que ces gens-là, si je peux les citer, monsieur Abbé Malou, monsieur Ngoï Moulouda, ils ont organisé des élections, mais ils organisent, chacun organise des élections avec le reste du processus. Alors, si aujourd'hui, ils vont nous dire qu'ils seront plus sérieux pour ne pas plonger ou replonger la population dans une confusion, alors nous allons dire, ça va, si nous allons cette fois-ci voter nos représentants au niveau du secteur, au niveau de la chefferie, etc. Donc, moi je peux dire, c'est une chose importante qu'on peut applaudir d'une part, mais si alors il faut replonger encore la population dans une confusion totale, et je leur poserai des questions, messieurs, vous nous aviez dit que les élections urbaines, municipales, locales constituent une fondation, un fondement pour le système électoral dans les pays. il faut que ces gens apprennent aussi à respecter la population. Parce que je me souviens, c'était sur les antennes de la radio au Capillon, on est en train de demander, de poser la question à M. Nkengo Ouimounda. Monsieur le président de la CENI, est-ce que vous savez que si le versant, si le sang des peuples congolais sera versé, ça sera à cause de vous? Parce que votre processus électoral, votre cycle électoral, contenait beaucoup d'irrégularités. Et moi-même, j'avais été témoin, monsieur Alain Ronk, en 2011, c'était précisément au niveau de l'école primaire Bimbi où il y avait un bureau de vote qui avait été installé là-bas. Un suppléant des députés qui lui facilitait les transports des urnes, des militaires. Alors ça m'a fait fâcher. Et c'est tout le monde qui disait, finalement, le pays est déjà mort. Et donc un appel que j'ai de lancer à tous ces gens qui organisent l'élection, qu'ils respectent à un certain niveau la population, étant donné que cette population a besoin de se retrouver devant des dirigeants qui ont été votés de manière transparente et de manière démocratique.
Merci. Merci Félix Kabouzi. Avant que l'on passe à notre deuxième thème, le temps est en train de filer. Le train est en marche, le calendrier est lancé. Vous parliez d'un consensus qui n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant?
Donc, je crois que ce consensus-là est absolument nécessaire. En dehors de ce consensus ou en dehors de l'ouverture, si vous voulez, des concertations entre les différents partenaires, les différentes parties prenantes à ce processus, je crois que c'est mal parti. Je crois qu'on n'arrivera pas à des élections crédibles. Or, nous en avons besoin. Vous voyez, qu'est-ce que le pays n'a pas perdu sur le plan, si vous voulez, de respectabilité après ce que nous avons connu à 2011? Pendant plus de 2-3 ans, le pays a été presque mis en quarantaine. C'est à peine que certains pays commencent à inviter notre chef de l'État. C'est à peine que d'autres pays commencent à visiter le Congo. C'est à peine qu'on commence à reconnaître, de fait, si vous voulez, les dirigeants qui sont là parce qu'avoir été mal élus. Donc on ne peut pas répéter cette triste expérience pour la deuxième fois, encore que au plan interne, il y a beaucoup de divisions après les élections chaotiques de 2011. Je pense que le bon sens incite à ce que Malumalu et son équipe reviennent, si vous voulez, à la raison, de telle sorte que cette concertation puisse avoir lieu, qu'on prenne en compte ce que la société civile dit, ce que la population dit et ce que l'opposition dit pour essayer d'arranger, si vous voulez, ce qui ne va pas dans ce calendrier.
Albert Rumba, les élections, c'est vrai, c'est une question de souveraineté. Ne faudrait-il pas que la communauté internationale, par exemple maintenant, puisse donner ses observations, dire ce qu'il faut faire au lieu d'attendre la dernière minute? Et c'est là que plusieurs observateurs pensent qu'il s'agit d'une hypocrisie.
Bon, il n'y a pas d'hypocrisie parce que si les Occidentaux se mettent ou les étrangers se mettent à donner des observations avant qu'on organise les élections, ça va créer beaucoup de problèmes. On pourra dire qu'ils veulent orienter le processus vers tel ou tel sens. Vous avez vu qu'il y a eu même des discussions quand on a constaté que la MONUSCO a mis 15 personnalités au niveau de la section électorale pour suivre le processus. Il y a eu beaucoup d'opposants qui ont levé le ton pour s'opposer à cela. Donc c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de réserves au niveau de la communauté internationale.
Dimanche Kamate, est-ce que les finances, Albert Rumba a tout à l'heure dit qu'il y a déjà certains pays qui hésitent à donner leur contribution, est-ce que les finances pourraient devenir un problème à un certain moment?
Oui. Monsieur Alain Ronk, je voudrais signaler un point important. Je crois que nous tous nous maîtrisons la situation politique dans laquelle se trouve notre pays. Quand quelqu'un se présente comme un sponsor d'un artiste musicien, il revient à celui-là, donc à ses sponsors, de proposer les jours où les concerts seront livrés. Alors, aujourd'hui, la CENI est en train de dire qu'elle est en train de recevoir les fonds en provenance des pays étrangers ou de l'extérieur. Alors, moi, je me dis, est-ce que ce ne sont pas ces mêmes gens qui ont financé cette CENI et qui continuent à le faire jusqu'aujourd'hui? Est-ce que ce ne sont pas ces mêmes gens qui vont encore télécommander cette même CENI? Parce que nous savons tous que les Congolais, à un certain niveau, ils se comportent à un peuple, ils se comportent à un peuple moins sérieux. Alors, ce que moi je vais ajouter, c'est ceci. Aujourd'hui, la CENI est en train de dire que les élections qu'elle va organiser seront fiables, transparentes et démocratiques. Alors, il faut que cela soit prouvé pour que cette fois-ci, le pays ne soit pas replongé dans une nouvelle aventure du chaos. Parce que, au moins, nous avons besoin de voir nos frères. Nous avons besoin de vivre longtemps. Nous n'avons pas besoin de verser le sang. Parce que, en versant le sang, on perd les siens. Alors, qu'est-ce que c'est mis et qu'est-ce que Bayer défend et pitié des Congolais. S'ils ne puissent pas soutenir nos élections dans le but juste de nous replonger encore dans une nouvelle aventure de guerre.
Merci. Nous allons passer à notre deuxième thème de ce soir. Lundi dernier, les femmes congolaises réunies dans plusieurs associations ont déposé un mémorandum au corps diplomatique. Dans ce mémorandum, elles protestent contre les violations des droits de l'homme dans les expulsions de Brazzaville. Mimi Ngumba Mulongo.
Elles étaient des centaines de toutes tendances et couches sociales confondues ce lundi dans la salle des spectacles du Palais du Peuple à Kinshasa. Ces femmes congolaises ont condamné le traitement inhumain dont sont victimes les femmes expulsées du Congo-Brazza. Face à cela, elles estiment que certains officiels de Brazzaville doivent être traduits en justice. Parmi ces officiels, elles citent le général François Ndengue, à qui elles reprochent des propos xénophobes et incitation à la haine. Rose Mutombo.
Les expulsions massives et barbares usant des méthodes et pratiques inhumaines avec dommages corporels inqualifiables ayant conduit à la mort de certains de nos compatriotes. Le viol, la torture, l'humiliation et la brutalité infligées aux filles.
En réaction au message des femmes, le chef de la MONUSCO a lui aussi condamné ces exactions qu'il qualifie de contraires à la charte des droits de l'homme. À en croire Martin Kobler, la communauté internationale s'y attelle déjà.
J'ai demandé l'arrêt immédiat des expulsions en masse et aux autorités de la République du Congo d'enquêter sur les allégations des violations des droits de l'homme.
Avant cette rencontre, ces femmes avaient déposé un autre mémorandum au Parlement et à la primature, toujours au sujet des expulsions.
Merci Mimi Ngumba Mulongo. Albert Rumba, vous êtes journaliste à Tropicana FM, une télévision émettant à Kinshasa. Les exactions dans les expulsions de Brazzaville, on en parle de plus en plus. Il y a un plaidoyer autour de ça. Qu'est-ce que ça peut changer d'après vous?
Ça doit changer beaucoup de choses. D'abord, c'est une honte. C'est une honte pour voir de tels agissements entre les populations de pays frères et nous, Congolais du Congo Kinshasa, on considérait Congo-Brazza comme étant notre pays. S'il y a eu peut-être des dérapages de la part des nationaux, des Congolais, de Congo Kinshasa.
De certains.
Cela ne pouvait pas, parce qu'il y a la police, il y a le service de sécurité qui pouvait s'en occuper, expulser les personnes concernées. Mais quand la mesure est allée au-delà des personnes concernées, et surtout, on a déploré beaucoup, beaucoup de violations des droits de l'homme, et surtout les viols qui ont été perpétués à l'égard de nos jeunes mamans. C'est une honte, je le répète encore. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut au niveau d'abord de concerner des victimes qui sont les femmes, lever le ton, pas déposer seulement des plaintes, mais faire une grande marche à travers toute la République où toutes les femmes doivent se lever d'un seul bond pour démontrer à la face du monde qu'on ne veut plus de cette histoire de viol, parce que ça fait la honte de l'Afrique. On croyait que le viol c'était seulement RDC, or que nos frères d'en face font la même chose. En dehors de ça, il faut aussi, quand on dépose les plaintes, le gouvernement devait aussi agir d'une façon assez brutale aussi, et prendre des dispositions protocolaires, diplomatiques, politiques, ainsi de suite, pour montrer à la République du Congo qu'on est vraiment indigné du comportement de leur autorité de sécurité. Et la dernière chose à faire, c'est de motiver, d'enrichir tous les dossiers. On ne peut pas parler seulement de dépôt de plaintes, mais la plainte doit être enrichie. Il faut motiver ces plaintes, il faut prendre tous les témoignages, constituer un dossier costaud que vous allez déposer devant les instances internationales qui pourront s'en occuper.
Félix Kabouizi, directeur de publication du journal La Référence Plus, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Ce sont les femmes qu'on entend, les Nations Unies s'en sont mêlées, mais certains observateurs pensent qu'on n'entend pas suffisamment le gouvernement.
Je crois que le gouvernement est tout à fait gêné par rapport à ce dossier. Je crois que je voudrais partir avec les derniers propos de Omba en disant qu'il faut documenter ce qui s'est passé à Brazzaville.
On ne peut pas se livrer uniquement à la politique spectacle, hein, au show médiatique, voir des gens défiler à la télévision pour, si vous voulez, injurier à longueur de journée les Congolais de Brazzaville ou les autorités. Si on veut être sérieux, il faut documenter cela. Documenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement congolais organise une sérieuse enquête où on doit pouvoir recenser tous les cas. Combien de morts y a-t-il eu? Il faudrait qu'on le sache. Je n'ai, en tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu un seul rapport où tout cela est recensé systématiquement. Combien de morts par balle y a-t-il eu, par noyade, par étranglement, par des violences qu'on a connues? Combien de femmes ont-elles été violées? Dans quelles circonstances? Dans quel quartier? Et tout cela doit être fait. Combien d'enfants a-t-on noyé? Combien de femmes ont-elles mis au monde sans assistance médicale? On a parlé de certains Congolais qu'on aurait amenés dans une morgue, hein, avant même qu'ils n'aient rendu l'âme. Tout cela doit être documenté pour que des actions soient menées vis-à-vis de la justice. Mais j'ai une inquiétude. L'inquiétude, c'est que ce n'est pas la première fois que nous sommes en face de ce genre de problème. En Angola, on a toujours expulsé des Congolais dans la plus grande brutalité. On n'a jamais vu une seule fois le gouvernement congolais lever le petit doigt. Il y a encore un cas plus grave, n'est-ce pas, avec l'Ouganda, un contentieux qui a même fait, si vous voulez, qui a même été débattu à la Cour internationale de justice, où le gouvernement congolais avait même eu raison. L'Ouganda avait été condamné, je crois, à payer plus de 10 milliards de dollars, hein, pour occupation de notre pays, destruction méchante, pillage, et tout.
Et c'est un peu resté sans suite.
C'est resté sans suite. En 2009, je crois, un député de la majorité, le député Kalala, le professeur Kalala, avocat, hein, de grande renommée, avait posé le problème à l'Assemblée nationale. Donc il y a de l'argent même que nous pouvons récupérer sur Kampala, mais on n'a jamais vu le gouvernement faire avancer ce dossier. Donc moi, je me dis qu'avec ce gouvernement, tout ce que nous sommes en train de voir par rapport au dossier des expulsés de Congo-Brazzaville, comme vous l'avez d'ailleurs dit, le gouvernement n'en parle même pas, c'est que on devrait déchanter tout simplement.
Dimanche, Kasereka Kamate, vous êtes journaliste à la radio Moto Oicha de Butembo, au Nord Kivu. Dites-nous, comment vous suivez cette actualité concernant ces expulsions à Butembo?
Oui, monsieur Aléonk, c'est ce qu'il faut dire. Ça fait honte. Ça fait la honte à notre pays ici. Je crois que nous avons les autorités au niveau de la province, nous avons les autorités au niveau de la capitale. Alors, lorsqu'on chasse les Congolais qui sont nos frères, en tout cas, ça me choque, je suis estomaqué jusqu'à un niveau-là supérieur. Alors, moi, je me dis, nous avions vécu un cas au niveau de l'Ouganda. Il y a nos Congolais qui ont été jetés dans l'eau. Au niveau du Congo-Brazzaville, il y a aussi des Congolais qui sont maltraités, des traitements inhumains. Est-ce que vraiment, nous, Congolais, pouvons-nous dire que nous sommes dirigés? Est-ce que nous pouvons dire que nous avons des autorités qui se soucient de nous? Parce qu'à un certain moment, on peut se poser la question. Pourquoi Dieu m'a-t-il créé Congolais pour que je mérite une souffrance comme celle-ci? On souffre de tous les sens. C'est une souffrance tous azimuts. Et donc, nous devons voir, nous devons appliquer une pression sur ces autorités pour qu'elles accordent quand même la valeur, n'est-ce pas, à la vie de l'homme. La vie de l'homme n'a pas de prix. Lorsqu'on parvient à violer une maman, lorsqu'on parvient à jeter un homme dans l'eau, on parvient à faire tout ce que l'on veut sur la personne humaine. Moi, je me dis, est-ce qu'en face de nous, il y a des gens qui se soucient de nous? Donc, à un certain moment, il y a risque de se poser la question, est-ce que ces gens qui sont au pouvoir, est-ce qu'ils se soucient de la vie des Congolais? Alors, l'appel que je vais lancer à tous nos dirigeants, mes chers dirigeants, nous vous aimons, le pays est le nôtre, et tous ensemble, nous devons nous unir. Mais à votre niveau, il faut aussi considérer ces bas peuples. Parce qu'on ne peut pas se dire dirigeants, alors que les gens qu'on est censé diriger sont en train de mourir chaque jour. Chaque jour, il faut compter des morts. Nous sommes étudiés par la balle. Nous sommes étudiés par les traitements inhumains. Nous sommes étudiés, finalement. Donc, ayez pitié de ces Congolais. Et en ayant pitié de ces Congolais, alors nous aussi, nous allons nous sentir comme Congolais. Mais sinon, prochainement,
merci,
il y a risque que les Congolais puissent dire, finalement, on est en face des gens qui se soucient moins. Et d'ailleurs, qui ne se soucient pas de nous.
Voilà, on est dans notre dernier tour de table, Félix Kabouizi. On a suivi sur certaines chaînes internationales, certaines autorités du Congo-Brazzaville affirmer que les expulsions allaient continuer et sur un ton vraiment pas très amical.
Non, je pense que nous, Congolais de Kinshasa, nous commettons l'erreur de penser que Brazzaville avec Kinshasa ou les deux Congos sont un seul pays. Ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas un même peuple non plus. Nous avons certes une culture commune, une langue commune.
Les mêmes racines,
une musique commune, mais ça fait deux pays différents. Ça fait deux drapeaux différents. Ça fait deux hymnes nationaux différents, ça fait deux présidents de la République différents,
deux visions différentes
du monde. Même si nous étions, Congolais de Kinshasa, nous nous étions retrouvés devant la même situation, qu'est-ce que nous aurions dû faire? Sinon que de les expulser. Peut-être que nous allions le faire avec un peu plus d'humanisme. La seule chose qu'on peut reprocher aux Congolais, plutôt aux autorités congolaises, c'est de n'avoir pas encadré des mesures qui sont tout à fait justifiées. Comment vous pouvez comprendre que des gens partent à Brazzaville, ils partent en Ouganda, ils partent au Rwanda juste avec un papier d'une semaine et ils s'installent là-bas
pour la vie?
Ce n'est pas possible. Dans un pays organisé, on ne peut pas concevoir ce genre de choses. J'ai toujours dit que quelque part, nos autorités doivent se sentir interpellées par rapport à cette expulsion massive des Congolais. On les a déjà expulsés plusieurs fois de l'Angola. On vient d'expulser du Congo-Brazzaville. Demain, ce sera le Rwanda, l'Ouganda, la Zambie et d'autres qui vont expulser les Congolais puisqu'ils sont très, très, très nombreux, même dans toutes ces parties-là du pays.
Albert Omba, pour terminer, on a l'impression qu'on est en train d'assister à une escalade. Il faut maintenant un visa pour aller à Brazzaville, il faut un passeport, il faut ceci, cela. Jusqu'où peut-on aller, d'après vous?
Bon, ce qu'on voudrait, c'est normaliser un peu les relations diplomatiques pour permettre aux populations d'émigrer dans les normes. Comme Félix l'a dit, il y a une certaine légèreté aussi dans le processus d'émigration où beaucoup de gens... Et comme on a dit, en dehors de tout ce qu'on a donné comme différence entre le Congo Kinshasa et le Congo Brazza, on constate que nous avons la culture belge pendant que nos frères d'en face ont la culture française. Et surtout que les élections pointent à l'horizon au niveau du Congo Brazza. Ils doivent mettre un peu de l'ordre dans leur boutique. C'est d'où il y a. Mais ce que nous avons beaucoup déploré, c'est le dérapage que ces expulsions ont pu connaître. Et c'est des rapages là que nous déplorons. Et il y a aussi à l'horizon, selon certaines informations, l'Angola qui se prépare aussi, qui a donné un ultimatum de 3 mois à tous les Congolais qui n'ont pas de papier de pouvoir rentrer déjà. Il ne faut pas qu'ils attendent à la dernière minute quand cet ultimatum va se terminer pour que cela se fasse dans la précipitation avec beaucoup de cas de viol et tout ça qu'on est en train de déplorer.
Dimanche Kamate, juste un mot pour clôturer, l'émission se termine déjà.
Oui, merci messieurs les modérateurs. Un mot que je vais lancer, les autorités congolaises doivent prendre conscience. Il faut qu'elles fassent tout pour que le climat de paix règne dans ces pays. Parce que lorsque les Congolais se décident de quitter leur pays pour aller s'installer ailleurs, cela prouve en suffisance que le climat n'est pas bon. Alors, que tous ceux-là qui sont à la tête essaient de voir comment stabiliser le pays, parce que nous aussi ne sommes pas contents lorsque nous sommes violés, lorsque nous sommes pillés, lorsque nous sommes maltraités de manière inhumaine. Et donc, François Brève, je vais lancer un appel, que nos autorités essaient de voir comment pacifier toutes les pendules du territoire national.
Merci.
Et ça permettra à tous les Congolais d'avoir le courage de vivre chez eux.
Merci, chers confrères, d'avoir participé à cette émission. La tribune de la presse s'est terminée pour ce soir. Kéline Kouté a assuré la réalisation. La technique Jean-Noël Mokondo, sous la supervision de Péléquipé Lamondo, présentation et coordination. Alain Irung Mouchinge, bonne suite au programme sur la radio de la paix. Au revoir.